Hello à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le premier média qui décrypte la réalité des métiers et du monde pro pour t'aider à trouver ta voie. Cette semaine, on part à la rencontre de Sacha, Sales Operations Manager chez Swile, une startup qui a récemment changé de nom, mais que tu connais peut-être sous le nom de Luncher. Sacha a fini ses études l'année dernière à la Paris School of Business, donc PSB, et il est rentré chez Swile pour son alternance. Depuis son arrivée, ils sont passés d'une grosse vingtaine dans l'entreprise à bientôt 300, avec des bureaux à Montpellier et à Paris. Dans cet épisode, Sacha te décrypte son job en toute transparence, son quotidien en tant que Sales Operations Manager, et il te dévoile les coulisses de Swile, une entreprise dans laquelle il a pu évoluer et apprendre énormément ces dernières années. J'espère que cette interview t'aidera à mieux comprendre ce qui se cache derrière les postes de Sales Ops, et qui sait, suscitera chez certains d'entre vous des vocations. Bonne écoute! Salut Sacha.
Salut Carla.
Avant qu'on commence, j'aime bien commencer par cette question-là sur le podcast. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant?
J'avais pas vraiment de vocation sur un métier. Souvent quand tu poses la question à des petits garçons ou des petites filles, tu veux faire quoi? Tu vas avoir la réponse, je veux être pompier, je veux être médecin, etc. Donc j'avais pas vraiment de vocation sur un métier. Par contre, j'en discutais il n'y a pas très longtemps et ma mère m'a dit « tu voulais être inventeur ». Je ne suis pas sûr que ce soit un métier réel, mais il y avait déjà, on va dire, cette envie de décortiquer un peu les objets, comprendre comment fonctionnait l'objet, cette envie un peu d'automatiser plein de trucs, de bidouiller plein de trucs, d'essayer d'automatiser. Et y avait aussi... le besoin d'avoir quelque chose de très tangible, d'avoir un résultat tangible. Et c'est quelque chose que je retrouve un peu aujourd'hui dans le métier que je fais.
Et quand tu étais jeune, ça se matérialisait un petit peu dans certains de tes hobbies ou dans ce que tu faisais à l'école, enfin, trucs comme ça
Dans mes hobbies, tout simplement, on a un atelier à la maison pour faire un peu de bricolage, etc.
Trop bien.
Et je passais ma vie clairement dans cet atelier à bricoler plein de trucs, des systèmes électriques avec des lumières qui s'allumaient toutes seules, etc. Donc,
Ah ouais, trop cool. Quand même pas mal de très hands-on dès le plus jeune âge.
Yes.
Trop bien. Et justement, du coup, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton parcours, les écoles par lesquelles tu es passé, même ce que tu as fait avant de rejoindre Swile?
Carrément. Du coup, mon parcours professionnel, il est très court, puisqu'en fait, j'ai intégré Swile quand j'étais encore étudiant. Donc, c'est ma première expérience professionnelle. Par contre, au niveau des études, je vais te raconter un petit peu plus ça. En sortant du lycée, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Du coup, j'ai discuté avec des amis de la famille, plein de gens autour. J'ai fait des salons professionnels, etc. Et il y avait un truc qui revenait assez souvent, c'était les écoles de commerce. Et son aspect un peu, justement, de formation assez générale sur les premières années et qui permettait peut-être de t'aiguiller un petit peu plus pour choisir une spécialité après. Et du coup, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire et qu'il y avait quand même beaucoup de thématiques qui revenaient dans les écoles de commerce qui m'intéressaient, notamment le marketing, je me suis dit vas-y go, et j'avais la chance de pouvoir faire une école de commerce aussi, et du coup je suis parti sur une école de commerce en 5 ans post-bac, donc pas de prépa, et très cool, effectivement tes premières années tu balayes un scope très large qui va de tes pires cauchemars qui sont la finance et la fiscale jusque aux trucs un petit peu plus fun, le marketing, le comportement du consommateur, et puis t'apprends des trucs très très théorique, un SWOT, un PESTEL, enfin, c'est des trucs très scolaires. Mais voilà, ouais. Au moins tu balayes un peu tout ça, et tu as une overview de tout ça.
Trop bien. J'aimerais revenir 2 secondes du coup sur ce que tu m'as dit au tout début, qui est que tu es allé vers une école de commerce parce que tu ne savais pas ce que tu voulais faire. Ce n'est pas du tout la première fois qu'on entend ça. Enfin, je pense que sur tous nos invités qui passent en école de commerce, et même moi personnellement, Jasmine aussi, on a tous... choisis cette voie un peu en se disant on ne sait pas ce qu'on veut faire. Ouais. Toi, tu me dis quand même que tu avais une appétence pour le marketing et qu'il y a des sujets comme la finance et la compta que tu n'aimais pas déjà. Ouais. Pourquoi avoir fait une école de commerce plutôt, par exemple, qu'une école de com ou de marketing digital à l'époque?
Carrément. En fait, pour être très honnête, je ne savais pas du tout qu'il existait à l'époque, et je viens de perdre l'acronyme, mais il y a l'équivalent en école publique aujourd'hui qui existe.
Ok.
Qui ressemble à une école de commerce mais qui est totalement publique. Je ne savais pas que ça existait, et j'avais postulé à des universités à Sceaux Du coup, c'était économie.
Okay.
Mais du coup, on est plus proche de la partie macro-microéconomie, donc ouais, plutôt maths que ce que tu peux faire en école de commerce. Pour être très honnête, c'était peut-être un manque de connaissance du marché des écoles.
Mmh.
Mais je n'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de formations autres que l'école de commerce,
ouais,
qui te proposent en fait d'avoir ces cours-là de marketing, de comportement, etc. Donc, c'était pas par dépit, parce que j'étais très heureux d'y aller. Mais c'est parce que j'ai pas trouvé d'autres alternatives qui me permettaient d'avoir un enseignement un peu similaire à ça.
Ok, ouais, carrément, je suis assez d'accord sur ça. Je trouve que même quand tu rentres en école de commerce ou quand tu rentres en prépa, tu sais pas en fait ce à quoi ça va déboucher après. Tu rentres là en te disant je vais pouvoir aller bosser dans des entreprises, mais tu sais pas ce que tu vas aller faire dedans. Moi, je suis rentrée en école de commerce, en prépa. On faisait de l'éco, de la philo, des maths. J'avais l'impression que j'allais pouvoir aller bosser à la Banque mondiale, au FMI, dans des institutions internationales. Et en fait, pour la quasi-totalité des étudiants, je pense qu'il y a 1% ou 2% des étudiants qui se dirigent vers ça.
Ouais.
Et alors que tu as l'impression que la prépa te fait miroiter, que c'est un peu tous les étudiants qui vont vers ça.
Ouais.
Et je trouve que ouais, je suis d'accord avec toi, il y a un manque un peu de visibilité. Je ne sais pas si c'est la faute de l'étudiant ou si c'est la faute des écoles et de comment elles se mettent en valeur, de comment elles se marketent, mais on a un petit peu du mal quand même à savoir ce qui se cache derrière les débouchés. Quoi.
Et pour être honnête, le poste que j'occupe aujourd'hui, donc qui est SalesOps, je ne crois pas qu'en France aujourd'hui, il y ait des formations pour devenir SalesOps.
Oui.
Je ne crois pas que ça existe. Donc, il y a aussi le fait que les métiers évoluent très, très vite,
mm-hmm,
notamment les métiers du digital.
Oui.
Genre, c'est très drivé par plein de choses, par tes outils, par tes besoins. Et je pense qu'effectivement, quand tu as une école, c'est assez difficile de t'adapter en fonction de marché. C'est pas ce qui va fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, ça veut dire qu'en fait, potentiellement, tu vas emmener deux promos dans un mur parce qu'en fait, quand ils vont sortir de leur promo, le métier n'existera plus. Ou...
Carrément.
Bon, tu trouves toujours quelque chose à faire, mais il y a ce risque-là pour une école aussi. Donc, je peux comprendre que...
Oui, d'où le fait que beaucoup d'étudiants se... prennent quand même encore la voie de l'école de commerce alors qu'il y a des formations un peu plus justement spécifiques qui commencent à exister.
Carrément.
Je pense par exemple à nous on a des amis de promo qui ont créé DataBird, donc je sais pas si tu connais, qui est donc du coup un bootcamp pour devenir data analyst, ou bien des bootcamps comme Iconoclast pour devenir sales, donc des formations beaucoup plus spécifiques, mais qui généralement sont couplées d'une sont des formations qu'on fait après,
exactement.
Ouais, carrément.
Et je pense qu'il y a un truc sur lequel les écoles peuvent avoir plus de souplesse et jouent un peu avec, c'est tes masters spécialisés. C'est
carrément.
Ton master et souvent tes profs, c'est des professionnels et c'est souvent des consultants. Donc c'est des mecs qui sont vraiment déjà dans le métier.
Carrément.
Plus facile, plus flexible à mettre en place.
Oui. Tu peux un petit peu du coup nous raconter tes années d'école, déjà les premières années un peu généralistes et ensuite celles où tu t'es spécialisée.
Ouais, du coup les trois premières années c'est du tronc commun pur où je te disais tu balayes de la fisc à la compta, etc.
Mm-hmm.
Franchement, je me suis très bien senti sur mes premières années. Il y a effectivement des matières sur lesquelles c'est plus dur parce que t'as pas d'appétence dessus, donc tu traînes un peu les pieds quand il faut que tu rentres ton projet de finance ou de fisca. mais il y a des projets aussi sur lesquels tu vas t'éclater et en fait c'est aussi ça la force de cette formation là, c'est que ça te permet de te conforter sur ce petit truc que tu as pu avoir en sortant du lycée, etc., où tu peux trouver un peu ok, ça j'ai compris que c'était ça qui me plaisait.
Okay.
Après, le truc qui était particulier chez PSB du coup, l'école de commerce, mais qui se fait de plus en plus, c'est le départ à l'international.
Ouais.
Donc pendant un an je suis parti à l'étranger, à Montréal, à l'UQAM, donc, qui est une université publique à Montréal. Ça a été une très belle expérience. Sur le premier point, c'est un point de vue humain. J'avais déjà quitté, on va dire, la province pour aller...
Tu viens d'où à la base ?
Je viens de Picardie.
Ok.
Et du coup, je savais déjà ce que c'était de vivre tout seul, de devoir te faire à manger et ta vaisselle le soir. donc j'avais pas ce choc là que certains amis de mes amis ont pu avoir en fait en arrivant au Canada.
Oui.
Mais par contre, il y avait quelque chose de très différent par rapport à ce que j'ai vécu à Paris, c'est que t'es effectivement très éloigné géographiquement de ta famille, t'es
sûr.
Éloigné avec le fuseau horaire de eux, t'as 9 heures de décalage, et du coup tu passes tout ton temps avec tes potes. Et du coup c'est cool parce que tout le monde est dans ce mood là en fait, tout le monde n'a pas sa famille et donc passe du temps avec ses amis. Donc, il y a des très fortes liaisons qui se créent, il y a des super expériences, et c'est vraiment un moment où tu vas apprendre à découvrir le pays dans lequel tu te trouves, parce que, en plus, tu n'as rien d'autre à faire, pour être très honnête. On avait 15 heures de cours par semaine.
Trop bien.
On n'était pas débordé par les cours. Ouais. Et du coup, bah ouais, tu t'expérimentes plein de choses. Et donc, d'un point de vue humain, c'était super cool. D'autant plus qu'on était dans des classes internationales.
Ok.
Ce qui veut dire mixer avec des Espagnols, des Italiens, des gens d'Amérique du Sud. Il y avait des Norvégiens, des Suédois, etc. Donc, c'est très cool. Tu t'apprends à casser tous les schémas que tu as dans ta tête et les a priori que tu peux avoir sur telle personne ou telle personne. Donc, très sympa. Et tu vois un peu les différentes manières de bosser. Et surtout, bah, t'améliores ton anglais aussi.
Trop bien.
Et non, c'est un truc où c'est une espèce d'année où tout le monde sait qu'il est là pour un an ou six mois. Donc, il n'y a vraiment pas de prise de tête. Tu rencontres les gens très facilement, tu discutes avec eux. Et en fait, tu crées des relations avec des gens du monde entier avec qui tu vas pouvoir reparler après. Et moi, je continue de parler avec des amis qui sont espagnols, etc.
Trop bien.
Donc, c'est super cool. Après, sur le plan de l'éducation, des cours... bon, c'était très léger,
ouais,
15 heures de cours.
J'imagine.
Par contre, c'est très différent de notre modèle. Mm-hmm. C'était très intéressant sur ce point-là. Les profs sont vraiment à la recherche d'interaction. Ce qu'on a beaucoup moins en France, où on a des cours un peu magistraux, où tu assistes à un cours. Là, tu es en amphi et les profs n'arrêtent pas d'interagir avec toi. Et je me souviens qu'on s'est même fait engueuler par plusieurs profs parce qu'en fait, il y avait une majorité de Français et que du coup...
Ouais, c'est pas du tout dans la culture.
Exactement. Et du coup, parfois, certains profs me disaient, mais en fait, j'ai besoin d'interaction, interagissez avec moi. Bref, donc il y avait cette partie-là de cours qui était très intéressante. Et dans les cours eux-mêmes, il y avait une grande place qui était donnée à l'entrepreneuriat.
Okay.
Donc, je sais pas si c'est propre aux États-Unis et au Canada. Il y a beaucoup de choses à construire au Canada. Mais je sais que chez nous, en France, on a beaucoup moins... Enfin, en tout cas, à PSB, on nous a beaucoup moins inculqué cette culture de l'entrepreneuriat qu'on a eu au Canada. Et ça va avoir un impact après sur plusieurs trucs.
Très bien.
Du coup, je rentre du Canada après un an. Et là, du coup, il faut choisir un master spécialisé. J'hésite très longuement entre le marketing stratégique et le marketing digital.
D'accord. C'était divisé en termes de master à PSB.
Exactement.
Okay.
C'était divisé et en fait, il y a le mentor du marketing stratégique et quelqu'un de très reconnu, etc., qui dispense des très bons cours.
Okay.
Donc, mon cœur balançait vers là. Mais la raison fait que tu réfléchis un peu et tu te dis c'est cool de faire du marketing stratégique, mais en fait, si tu ne sais pas faire du digital... Donc, je bascule vers ça, digital.
Est-ce que tu peux un petit peu, juste avant de rentrer dans le digital, nous définir justement qu'est-ce qui se cache dans le marketing stratégique, comme si le marketing digital, il n'y avait pas de stratégie derrière.
Exactement.
Ouais.
Pour être très honnête, c'est encore une grande incompréhension aujourd'hui.
Ok.
J'ai pas compris pourquoi ils ont divisé les deux. Je le verrais plus du point de vue où, côté digital, on avait un peu plus de hard skills, très très léger, mais genre ultra léger, mais un peu plus de hard skills sur du SQL, du C++, du...
au moins une intro à ces notions, quoi.
Exactement, une intro à ces notions-là. Et je ne suis pas sûr qu'il l'ait vu en stratégique.
Okay.
Et j'ai une vision un peu naïve de ce truc-là, mais pour moi, le marketing stratégique, c'est on va te former surtout à... je veux lancer un plan de com. Voilà les trucs que je dois faire, les étapes sur lesquelles je dois faire, etc. Donc, peut-être moins cette partie digitale, mais oui, perso, je trouve que c'est une aberration de diviser
les deux.
Les deux.
Ok. Exactement. Et du coup, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus en détail dans ce que tu as appris pendant ce master, cette SP, coup, marketing digital?
Oui. Et ben, en fait, un peu comme les trois premières années, je dirais qu'on engrange de la connaissance sur du soft skills. C'est assez intéressant de voir que on a énormément de projets à mener. Souvent c'est des projets qui nécessitent de faire une présentation ensuite à un groupe de personnes qui peuvent être ta classe mais aussi un amphi, etc. Je trouve ça assez intéressant de confronter les personnes qui peuvent ne pas être à l'aise avec ce fait de t'exprimer en public. Du coup ce truc là de voilà, tu montes un truc qui est sérieux et il faut réussir à le vendre, il faut que ton auditoire en fait il y croit en face de toi. Du coup il y a ce truc là qui est intéressant en école de commerce qu'on retrouve peut-être pas dans d'autres formations. Le fait que tu balayes plein de sujets là, sur les années de master on avait de l'acculturation à des outils qui sont utilisés pour faire de la veille ou voilà, des trucs comme ça. Les gens qui aimaient faire du SEO, bah voilà, on découvre ce que c'est SEMrush. Enfin voilà, il y a
D'accord.
plein d'outils que tu découvres un petit peu, que tu survoles. Donc ça ne suffit clairement pas à te dire, bah voilà, je sors de mon école de commerce et je suis un expert SEO ou SEA.
Ouais.
Clairement pas. Mais ça te permet de, encore une fois, de te dire, tiens, j'aime bien ça ou j'aime bien ça, pourquoi pas faire un
Okay.
stage là-dedans.
Okay.
En termes de hard skills, on est très léger. Franchement, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, tu me mets devant une page et il faut que je la code. Je fais une crise de
Impossible.
panique.
OK. OK.
Non, c'est impossible, clairement.
Ouais.
J'ai des bases en HTML, en
OK.
C++, voilà, mais c'est de la rigolade. Et tu me mets devant un dev, il va se foutre de moi.
Ouais.
Voilà. Mais au moins, tu sais à quoi ça ressemble à un code. Et si tu as des petites modifs à y apporter, tu peux y arriver. Aujourd'hui, je suis à peu près autonome
Trop bien.
pour faire une template de mail.
OK.
Voilà, en HTML.
Trop
Bon,
cool.
c'est du basique, mais ça peut te sauver la vie.
Je pense qu'il y a une question derrière ça de te dire. L'école de commerce, enfin, c'est un peu ma vision du truc, mais ça prépare pas à avoir des hard skills hyper hyper poussés. Ça te permet juste au moins, ça t'apprend déjà le management. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi des masters en management
Oui.
généralement. Et ça t'apprend aussi à parler le même langage que les personnes avec lesquelles tu vas bosser. Donc
Exactement.
au moins tu comprends tout le langage que va, le langage
Ouais.
pardon que va utiliser un dev quand il va coder quelque chose.
Carrément.
Tu es sur la même longueur d'onde. Tu sais le temps que ça prend de coder quelque chose, tu peux avoir au moins des idées, des sortes d'ordre de grandeur et tu parles le même langage, quoi.
Exactement. Et c'est assez important, effectivement. Alors, dans une vision de manager, oui et non, mais
Ouais.
aujourd'hui, quand tu discutes avec un dev et qu'il te dit bah, j'en ai pour 3 semaines à coder ça ou j'en ai pour une semaine,
Ouais.
tu vois assez rapidement si c'est parce qu'il n'a pas trop envie de se pencher sur ton projet
Ouais.
ou si c'est parce que ça prend vraiment 3 semaines.
Ok. Et aujourd'hui, on va rentrer plus en détail dans tous les cas dans ton poste de Sales Operations
Oui.
Manager. Mais c'est quelque chose que tu utilises au quotidien, toutes ces notions de marketing digital, code, etc. ou pas trop?
Je l'utilise de manière très légère. Je suis un partisan par défaut du no-code. D'ailleurs, j'ai un très bon pote, Antoine Milkoff, qui a sorti un podcast sur le no-code, qui est
Ah,
très
cool.
intéressant. Et du coup, je suis un fervent utilisateur de Zapier, par
Ouais.
exemple, qui te permet, voilà,
Trop bien,
en
Zapier.
étant non codeur,
Ouais.
mais en ayant un peu de réflexion, de réussir à monter des trucs qui tournent de manière assez cool et de sortir des MVP qui, voilà, qui tournent.
Carrément, c'est un peu l'école de la débrouillardise et
C'est
de
exactement
mais
ça.
c'est très cool. Enfin, nous on utilise beaucoup Zapier typiquement avec Jasmine.
Oui, bah c'est super, c'est un super outil.
Carrément. Carrément. Bah super, on va pouvoir rentrer un petit peu du coup dans ton job aujourd'hui chez Swile. Donc aujourd'hui tu es Sales Operations Manager. Je crois que tu m'avais dit que tu n'étais pas rentré chez Swile en étant Sales Operations Manager. Du coup, tu nous dis que c'est ton premier job. Comment est-ce que tu es rentré chez Swile? Par quelle porte? Et comment est-ce que tu as grandi dans l'entreprise?
Carrément. Du coup, en rentrant du Canada, on avait cette influence forte de il faut entreprendre. Et mon pote qui est chez Nouma, justement, me challenge un peu tout le temps sur vas-y, on lance un truc, on lance un truc. Et on finit par se chauffer pour lancer un truc chacun. Et la mode du moment, c'est les chatbots. Et je suis assez passionné de cuisine et de nature au sens potager du terme.
Trop bien.
Et du coup, je me dis, bah vas-y, j'aimerais bien lancer un truc dans la food pour aider les gens à mieux manger. Pas sur le plan diététique, parce que j'ai pas de compétences
Ouais.
là-dessus, mais sur tout ce qui peut être fruits et légumes de saison
Ouais.
et ce que tu peux cuisiner en ce moment. Et du coup, avant de lancer ça, on fait pas mal de meet-up dans la food tech, justement.
OK.
Et je rencontre un certain David Deslandes chez Urban Linker qui pitch Launcher.
OK.
Et je tombe amoureux de ce David et je me dis, en fait, l'idée, elle est géniale. Votre boîte, elle est super. Je passe un peu de temps à discuter avec lui. On s'ajoute sur LinkedIn.
OK.
Et genre, quelques mois après, il poste une annonce, on cherche un stagiaire. Et du coup, je me dis, bah, vas-y, go. Et c'est
Trop
comme ça que je
bien.
rentre chez Launcher.
C'est dingue. Ça prouve quand même la force un peu du réseau.
Ouais.
Et c'est drôle parce que du coup, on parlait de Databird hier, tout à l'heure. Nous, on était chez Databird la semaine dernière avec Jasmine. On a fait une petite formation justement sur le fait que les offres de stage et les offres d'emploi, elles ne se trouvent pas que sur JobTeaser
Ouais,
et sur
clairement.
Welcome. Et en fait, c'est ton réseau et c'est les personnes que tu as sur LinkedIn, à qui tu as parlé, qui généralement te permettent de t'ouvrir des portes mais
Ouais.
auxquelles tu n'as même pas pensé. Et c'est assez ouf.
Et c'est le meilleur des mondes parce que toi, en tant que stagiaire, et ça peut être dur des fois de te projeter en lisant juste une fiche de poste en ligne.
Totalement.
Alors que quand tu vois le mec pitcher et que tu tombes amoureux de l'idée et de la boîte, bah, en fait, tu te dis « Ouais, c'est là-dedans que je vais aller. » Et
carrément.
Je pense, sans te mentir, que j'ai dû envoyer au moins une cinquantaine de demandes de stage
ouais.
dans des plus ou moins grosses boîtes. Et c'est dur de se prendre des vents de manière très, très violente parce que, ouais, ils veulent quelqu'un qui a 3 ans d'expérience.
Oui.
En fait, bah, c'est pas possible d'avoir 3 ans d'expérience en stage.
En sorte, oui, clairement.
Donc c'est également un super moyen de bypass un peu toutes ces frontières.
Carrément.
Et que je comprends aujourd'hui, voyons-le de l'autre côté, quand une oui. entreprise, bah ouais, quand tu veux recruter du monde, ton seul moyen de le faire, c'est de, enfin, le moyen le plus facile de le faire, c'est de poster une annonce, etc.
Carrément. Et indirectement, enfin, nous directement, mais indirectement pour les boîtes, c'est un peu notre mission aussi avec Vocation de se dire, bah, on va faire découvrir des entreprises hyper cool aux étudiants. Ouais. De façon totalement nouvelle, donc par vidéo ou avec des podcasts où on interviewe des employés, pour que bah, les étudiants, s'ils ont un coup de cœur pour l'entreprise, bah, ils... par exemple, si Sacha, ils ont un coup de cœur pour toi, ils t'ajoutent sur LinkedIn et le jour où tu postes une offre de stage, eh ben, ils la verront comme ça. Tu vois.
Ouais.
Donc c'est un peu notre mission aussi de se dire, bon, bah, y a d'autres façons de découvrir les entreprises et la fiche de poste, bah, c'est pas le bon... Enfin, il faut découvrir l'entreprise avant de voir la fiche de poste, en fait,
c'est
pour nous.
Ultra cool. L'approche, elle est super smart sur ça. Parce qu'effectivement, en plus, quand tu es étudiant, voilà, tu as 20 ans, parfois tu as des rêves et tu te confrontes à la réalité de ton projet. Donc, c'est super cool d'avoir des trucs comme ça qui peuvent t'aiguiller dès le lycée, d'ailleurs, qui peuvent parfois t'aider dès le lycée à mieux te projeter. Et je me souviens qu'un truc qui m'avait marqué en arrivant ici, c'est que Welcome to the Jungle était venu dans nos locaux pour enregistrer des petites vidéos. Qui présentait, voilà, et la personne se présentait elle, etc. Et je me dis, bah voilà, c'est un bon moyen aussi de voir où tu mets les pieds aussi quand tu es stagiaire.
Carrément, ouais. Carrément, toujours bien mieux qu'une fiche de poste.
Ouais.
Et du coup, ce stage qu'avait posté David sur LinkedIn, ça consistait en quoi ?
Et du coup, c'était un stage en tant que CSM.
Ouais.
Donc aujourd'hui, on a splitté CSM et CARE.
D'accord.
Aujourd'hui, on a, enfin, avant, tout était ensemble. Pour faire très simple, il venait de lancer le produit.
Ouais.
Donc le produit, c'est une carte titre restaurant qui passe, donc que tu distribues à tes utilisateurs dans une société et ensuite tes utilisateurs vont manger le midi ou le soir faire leurs courses, etc., etc.
Qui s'appelait Luncher à l'époque.
Qui s'appelait Luncher à l'époque et qui s'appelle Swell maintenant parce qu'on fait plein d'autres choses.
On va y venir.
On va y venir. Mais du coup, et on venait de lancer le produit et du coup, c'est un poste qui est crucial parce que à la fois tu aides les administrateurs des sociétés qui doivent comprendre ta plateforme pour recharger les cartes de leurs salariés, comment ça se passe, comment fonctionne ta plateforme et comment ils peuvent l'adopter de manière très rapide.
Okay.
Et tu as le pendant qui est utilisateur, qui est le mec qui a une carte dans la rue, et bah, comment elle fonctionne ma carte, où est-ce que je peux la faire passer, et bah, tout con, mais j'ai perdu mon code PIN, j'ai perdu mon mot de passe. Tu es là pour aider les gens aussi. Et tu as des retours sur ok, mon application elle est buggée, ou alors votre carte elle devrait passer ici, elle passe pas. Et en fait, c'est magique parce que tu es en train de lancer ton produit, tu sais même pas encore s'il fonctionne très bien, tu es sur une MVP et toi tu es à la place où tu as tous les retours. Tu as les retours clients, tu as les retours user et en fait du coup bah, tu fais monter rapidement ton produit parce que tu prends en considération tous tes retours clients et du coup c'est un poste qui est super pour ça. Et le deuxième point c'est que tu dois connaître ton produit sur le bout des doigts parce que quand le mec il te contacte sur le chat. À l'époque, on avait un chat. On l'a toujours, d'ailleurs. Donc, on a le chat. D'ailleurs, notre promesse, c'est de répondre en moins d'une minute.
OK.
Les stats du mois dernier, je crois que c'est 30 secondes pour répondre en moyenne sur les
tickets. Pas mal.
Donc, ce qui implique qu'en fait, tu connaisses vraiment bien ton sujet. Parce que si le mec, il veut une réponse dans les moins de 30 secondes, bah, il faut que tu dépiles.
Carrément.
Et du coup, tu as une bonne connaissance de ton produit. Et c'est super quand tu viens d'arriver dans une boîte de bien comprendre ce que tu vends.
Trop bien. Du coup, juste petite précision pour nos auditeurs, on est d'accord que les postes de CSM et de CARE, du coup, c'est le service client.
Alors, ton CSM aujourd'hui fait beaucoup de proactifs.
D'accord.
C'est-à-dire que, on va en parler un petit peu après si tu veux, mais on utilise Salesforce en tant que CRM.
Ok.
Donc, le CRM, c'est un peu un endroit magique où tu mets toute ta donnée client.
Ouais.
Et du coup, aujourd'hui, le CSM exploite la donnée du CRM
d'accord.
pour vérifier si une entreprise passe bien des commandes, si elle ne passe pas, les risques de churn, etc. Donc, elle fait beaucoup de proactifs.
D'accord.
Et effectivement, elle accompagne les administrateurs. Typiquement, quand on signe une grosse société, le sales qui signe va ouvrir un objet sur Salesforce pour faire signe au CSM en lui disant « Eh oh, je viens de signer ça ». Voilà les caractéristiques de ce compte. Genre, ils commandent du multiproduit, ils ont des adresses particulières, etc. Donc, le CSM reçoit une fiche.
Okay.
Et ensuite, il appelle son client, enfin le client, et il va le former. Et du coup, on a vraiment cette approche-là de, on forme nos administrateurs pour qu'ils soient parfaitement autonomes après. Okay. Donc, ils font surtout du proactif.
Ok. C'est pas juste, je viens régler les bugs quand il y a des bugs.
Exactement. Okay. Ils en font, etc. Et le care, qui fait ça aussi sur les users, a une partie, on va dire, pompier,
okay,
un peu plus importante parce qu'elle, elle gère le chat. Ouais. Et donc, effectivement, il y a ce besoin de pompier qui est beaucoup plus gros. Donc, le CSM fait aussi du pompier, mais peut-être 10% de son
ouais.
cas.
Ouais.
Okay. En gros, c'est du 80-20 et inversé de l'autre côté.
Ok. Ok. Ok, super clair. Ouais, comme tu nous disais, ça doit être dingue en fait quand t'es dans une phase où tu viens de sortir ton premier produit, que tu sais qu'il est pas parfait et que c'est toi qui centralise tous les retours des utilisateurs. En fait, c'est crucial même pour après piloter la stratégie de à quoi va ressembler la V2 du produit oui. launcher quoi.
Pour être très honnête, je venais d'arriver dans la boîte, donc je voyais ça de très loin ouais. et je pouvais faire quelques petits recos. Mais mon boss de l'époque qui était Shabby, qui bosse toujours chez Swile, toujours en CSM, effectivement c'est de la valeur, c'est une valeur ultra importante pour la société.
Carrément.
Parce qu'il fait des retours de dingue et il a une vision incroyable sur le produit.
Trop bien. Et t'as passé 6 mois du coup en stage à ce poste ?
Du coup, effectivement j'avais signé pour 6 mois, j'ai fait 3 mois en tant que CSM.
Ok.
Rapidement, il y a un besoin qui s'est fait sentir sur l'équipe sales.
Ok.
Donc avec le manager qui vient nous voir et qui nous dit, les gars, j'ai besoin de reporting pour savoir un peu où on va. Donc tu vois, tu viens de lancer ton produit. Un des trucs qui est important, c'est de savoir si ton produit fonctionne.
Ouais.
Et puis sur la partie sales, c'est de savoir si la mayonnaise, elle prend, en fait, s'il y a des gens qui utilisent ton produit.
Carrément.
Et du coup, il y avait ce besoin de reporting. Et en fait, tu te rends vite compte que pour faire du reporting, il faut que tu aies de la donnée qui soit fiable.
Ouais.
Et que tu aies de la donnée qui rentre aussi. Et du coup, le meilleur outil qui te permet de faire ça d'un point de vue sales, c'est ton CRM.
Ouais, ok.
Et du coup, je bascule sur un poste de Sales Operation Manager à ce moment-là.
D'accord. Hyper tôt quand même.
Assez tôt, ouais. Ouais.
Au début, à quoi ressemblait ton poste ? Enfin déjà, en fait, qu'est-ce que ça cache être Sales Operations Manager ? Et qu'est-ce que ça cache être Sales Operation Manager, du coup, dans une entreprise qui vient de se lancer qui est encore assez jeune
ouais.
et chez Swile qui a énormément grandi aujourd'hui
ça cache beaucoup de trucs en vrai c'est très très vaste. Effectivement, le premier point, c'est le manager qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin de ça. Du coup, on se pose sur de l'architecture, de la construction de ton CRM.
Ok, donc tu t'es posé, quand t'es arrivé à ce poste-là, il n'y avait pas encore CRM.
Il y avait une base de CRM, okay. Donc Salesforce, il y avait déjà une base de construite,
okay.
Mais il fallait la custom pour que ça réponde mieux à nos besoins et que ça colle un peu mieux à nos besoins.
Ok.
Et du coup, tu vas construire ce truc-là de manière très pragmatique au début, surtout que je mettais les mains dans Salesforce, donc vraiment, je découvrais l'outil.
Ok.
Mais pour faire très simple, il te faut beaucoup de bon sens. Je te refais le parallèle avec la maison.
Yes.
Mais en gros, tu rentres dans une pièce. Le plus pratique, c'est que tu as un interrupteur quand tu rentres pour allumer la lumière. C'est pareil, dans ton CRM, tu rentres dans un objet, et le plus pratique, c'est qu'il y ait les boutons aux bons endroits et que tu puisses rentrer ta donnée aux bons endroits.
Okay.
Donc il y a une partie d'architecture très bon sens. Ensuite, il y a de la logique, beaucoup de logique. Il faut que ton rez-de-chaussée soit relié à ton premier via un escalier. Dans ton CRM, il faut que ton opportunité, elle soit reliée à un compte. Ok, j'ai tel deal qui est ouvert avec cette société-là,
ouais.
Et je sais que je peux m'adresser à telle personne dans cette boîte-là. Donc
okay.
Tu lis ton contact et tout. Donc tu as des branchements à faire voilà, là-dessus. Et l'autre partie, c'est qu'il ne faut pas que tu oublies que tu travailles avec des sales. Ces sales-là, ils vont, dans un premier temps, avoir une vision court terme sur ce qu'ils font. Et
ouais.
C'est tout à fait normal parce qu'ils ont le nez dans le guidon, en fait. Et en fait, il faut que tu les aiguilles pour leur dire. Si tu rentres ta donnée là, maintenant, même si tu ne vois pas l'intérêt aujourd'hui, tu vas y voir l'intérêt plus tard.
Ouais.
Et du coup, pour faciliter tout ça, tu mets en place des automations. Donc, tu essayes de déduire en fonction de ce qu'ils ont rempli pour remplir d'autres champs, ou alors tu leur évites énormément d'administratifs.
Okay.
Et donc, ils sont plus enclins à remplir un champ si l'autre se remplit automatiquement, etc.
D'accord.
Donc, une grosse partie d'automation qui est assez marrante à construire.
Donc, en gros, si je comprends bien, c'est de se dire... Les sales, leur but, c'est de signer des clients,
ouais.
De faire du chiffre. Donc, eux, ils ont la tête dans le guidon là-dedans. Il faut leur éviter... Alors que la donnée qu'ils peuvent capter à ce moment-là, quand ils sont avec le client, elle est cruciale,
ouais.
À la fois pour eux, mais à la fois pour la suite et pour toutes les, enfin pour le marketing, pour le CSM, exactement, pour tous les autres départements. Et donc il faut qu'elle soit accessible au reste de l'entreprise. Donc il faut que tu le séduises au max pour qu'il remplisse ses cases, quoi.
Okay. Il faut séduire ton sales. C'est au même titre que ton client, ton sales, c'est une mine d'or d'informations, et surtout c'est le premier qui va créer une vraie relation avec ton client.
Ouais.
Et du coup, voilà. Mais c'est tout à fait compréhensible qu'il n'ait pas envie de faire de l'administratif, c'est pas son travail, et il n'y voit pas la valeur ajoutée à ça. Et pour être honnête, nous non plus. Voilà, un sales, ça a un coût. On ne veut pas que le mec il passe son temps à remplir des champs. On veut qu'il passe son temps à discuter avec des clients, à aller les voir, à leur expliquer notre solution, etc.
Oui, ok. Donc toi, une partie de ton job en tant que Sales Operations Manager, c'est d'assister les sales pour que cette donnée hyper importante qu'ils arrivent à toucher du client, elle soit accessible au reste de l'entreprise en mettant en place des process.
Ouais. Okay. Et du coup, c'est même la construction, enfin c'est la construction de ta maison du coup qui est ton CRM. Et du coup après, il y a une partie effectivement de formation des équipes pour leur expliquer comment ça fonctionne, etc.
Okay.
Ça c'est une première partie.
Ouais.
Une fois que tu as fait ça de manière propre, tu peux t'attaquer à ce que veut ton manager, c'est-à-dire du reporting.
Ouais.
Et il veut pas que ça. Mais et du coup, oui, j'ai oublié de te dire, mais sur cette phase-là, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vas passer beaucoup de temps avec les équipes sales. Donc c'est tout con, hein, tu prends ton fauteuil, tu t'assois à côté d'eux et tu regardes comment ils font, tu regardes toutes les conneries qu'ils font, t'écoutes les conversations et en fait tu regardes ce qu'ils écrivent. Okay. Et en fait tu te rends compte que t'as dit tout ça pendant ta conversation et en fait ce que t'es en train de m'écrire ça correspond à 10% de tout ce qui s'est dit pendant l'échange. Tu vois la perte de trucs que tu fais. Du coup tu essaies de voir où tu peux catcher des informations qui ont énormément de valeur. On y reviendra après je pense, mais l'un des avantages de l'Ops c'est qu'il a une vision très transverse sur la boîte, sur le marketing, le sales, etc. Donc très vite tu vois la valeur ajoutée que lui voit pas forcément. Tu sais que si ça tu le catches, et en fait ça va faciliter la vie du CSM. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc tu passes beaucoup de temps avec tes équipes sales, il faut être très attentif à ce qu'ils font, et il faut être très ouvert à la remise en question toi-même de ton système. C'est-à-dire que tu vas construire des trucs et les sales vont te dire mais ben en fait c'est nul, ça fonctionne pas, ça tourne pas, etc. Et donc il faut être très ouvert à la remise en question aussi.
D'accord.
Du coup, une fois que tu as construit ta maison, tu passes à la partie reporting. Et là, cette fois-ci, tu vas passer plus de temps avec les managers.
D'accord.
C'est très intéressant aussi parce que du coup, tu es en pleine startup et tu vois de quels KPIs ont besoin, de quels stats les managers ont besoin pour piloter leur activité. Et du coup, c'est super intéressant parce que tu te dis, ah ouais, c'est comme ça qu'on pilote une entreprise quand tu la lances. Du coup, on va les voir comme des pilotes et ils sont dans un avion. Ils sont dans l'avion launcher ou spoil. Il va très vite, il vole à une certaine vitesse. Tu sais pas à quelle vitesse il va, tu sais pas dans quelle direction tu vas. Il fait nuit dehors et tu as deux mecs derrière leur fauteuil. Et en fait, ces deux mecs-là, ils ont besoin d'avoir des instruments pour piloter.
D'accord.
Ils ont besoin d'avoir un GPS, ils ont besoin de savoir à quelle vitesse ils vont, etc.
Ouais.
Et du coup, c'est ton rôle en tant que sales ops de venir construire les dashboards qui leur permettent de savoir voilà, on a signé tant de contrats, il y a tant de nouveaux users ce mois-ci, etc. Okay. etc.
Donc tu t'occupes de faire ces reportings-là et pour les faire, tu les fais sur des logiciels que toi t'as spoté ou bien est-ce que tu utilises Excel? Qu'est-ce que tu utilises pour faire ces analyses et ces reportings?
Du coup, l'enjeu du point architecture, c'était effectivement, quand tu réfléchis à ton architecture, de réfléchir à ton reporting juste derrière pour qu'en fait tu puisses faire du reporting en temps réel et de manière assez facile.
Okay.
Et du coup, là, la chance qu'on avait, c'est qu'on peut faire du reporting en temps réel que tu peux refresh toutes les deux minutes directement dans Salesforce.
Trop bien, ok.
C'est un système qui monte ses limites au bout d'un certain moment, notamment parce que tu vas te rendre compte que tu utilises du back-office pour ta facturation, tu vas utiliser du Salesforce pour ton sales. Et au bout d'un moment, aujourd'hui, par exemple, on utilise Periscope, qui va en fait faire de la stat sur de la donnée agrégée, qui sera trop complexe à faire dans Salesforce. Tu as beaucoup plus de flexibilité dans Periscope, tu fais une petite ligne de SQL et tu peux sortir tes données agrégées là-haut.
Ok, donc au début, Salesforce, ça faisait le taf en termes de reporting.
Ouais.
Mais quand tu veux aller plus loin, il faut utiliser des nouveaux logiciels.
Oui et non.
Okay.
Y a des stats, il y a des KPIs que tu ne regardes pas au début quand tu lances ta boîte.
Ok.
Et il y a des KPIs que tu regardes ensuite. Aujourd'hui, par exemple, toute la partie commerciale, par exemple, tu as Guillaume qui est juste derrière nous, qui est sales, il veut regarder quel contrat il a signé cette semaine, etc. Salesforce, ça fait très bien le taf.
Ok.
À partir du moment où tu veux croiser de la donnée qui vient d'endroits différents.
D'accord.
Effectivement. Donc, typiquement, ta partie finance, parfois, elle a besoin de faire des reports qui ont une vision très macro. Et là, effectivement, Salesforce, c'est pas le bon outil pour le faire.
Ok. Et qui est très clair. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu veux aborder sur les sales ops ou bien on a fait le tour de tes missions.
Peut-être une dernière grosse brique.
Ouais.
Qui est le marketing.
Ok.
Tu as fait ton architecture en pensant à ton report. Et tu fais ton... Surtout que j'avais très envie de faire du marketing, donc tu fais ton architecture en pensant à comment tu vas pouvoir l'exploiter en faisant du marketing. Et du coup, je commence à mettre les pieds dans le marketing avec un mec qui s'appelle Quentin Lallemand, qui lui est beaucoup plus growth et qui est une pure machine de guerre. mais du coup, c'est hyper intéressant d'aborder le marketing d'un point de vue growth parce que tu es au lancement de ton entreprise et il y a un truc très rapide qui arrive. Tu as 30 sales derrière toi qui te disent « j'ai plus rien sur Salesforce, il me faudrait du lead ». Et du coup, toi, tu vas tout faire pour faire rentrer du lead dans ton CRM, soit par de l'inbound, soit sur de la prospection cold, etc.
Okay.
Et du coup, tu as toute cette partie-là où tu essaies d'être un petit peu smart, tu as des approches vers des clients. Tiens, j'ai vu que vous venez de lever des fonds, enfin, ça peut être plein de trucs. J'ai vu que vous recrutiez, c'est un truc qui marche très bien. Les sociétés qui recrutent, elles veulent mettre en avant leurs avantages pour les salariés.
Ouais.
Et typiquement, bah, ton titre restaurant, c'est un avantage très utilisé en France. Et du coup, voilà, c'est des trucs que tu peux mettre en avant. Donc, tu vas aller chercher un peu tes segments comme ça, tu vas essayer de chercher du lead. Donc, tu commences à mettre les mains sur un peu de la communication. Alors, on est au niveau zéro de la brand et du content.
Ouais.
Mais voilà, tu draftes quand même toi-même tes propres emails, tu testes des trucs, ok, et si j'essaie de l'approcher comme ça, qu'est-ce que ça donne? Et tu mets les mains dans le marketing automation, qui est très, très drôle, qui est, en gros, t'as des flows.
Ouais.
Et en fonction de comment réagit la personne, bah, tu déclenches tel ou tel flow et telle ou telle suite de trucs, etc.
Ouais.
Et du coup, tu fais du comportement consommateur, qui est un truc juste génial, d'essayer de comprendre comment se comportent les gens.
C'est quand même tellement différent du marketing traditionnel qu'on peut retrouver, par exemple, chez un L'Oréal ou chez un LVMH ou dans des boîtes comme ça. Là, le but, c'est vraiment d'utiliser... Enfin, c'est pas de faire des beaux visuels ou de réfléchir à... cœur et aux valeurs et à la vision, même si c'est très important de ta boîte, c'est vraiment plus de réfléchir à qu'est-ce qui va pouvoir te permettre de générer, d'intéresser tes clients et de cibler les clients avec des méthodes un peu rusées, un peu pirates pour aller les trouver.
Et
trop cool.
Faut pas oublier que ton objectif principal en tant que sales ops, c'est d'augmenter la productivité des équipes sales.
C'est
très très large, mais par exemple le fait que tu leur apportes du lead et que ce lead-là il soit déjà intéressé, etc.,
t'augmente
leur productivité forcément.
Trop bien. Il y a quand même beaucoup, tu parles quand même avec beaucoup d'équipes, j'ai l'impression, chez Launcher, donc Swile. Ça doit être dur de trouver par où commencer au début, je trouve. Je me dis, ça doit être dur de se dire, est-ce que je commence, vu que tout est imbriqué un petit peu ensemble, c'est comment est-ce que tu répartis ton temps, par exemple, dans une semaine entre bosser sur ces différents canaux et différentes missions dont tu viens de nous parler.
Du coup, tu as raison, on est une team core. On existe uniquement parce que les autres équipes existent et qu'elles ont besoin de support.
Ouais.
Et que bien souvent, on joue le rôle de ciment entre plein d'équipes. Le marketing n'a pas toujours la vision sales. Le sales n'a bien souvent pas la vision marketing.
Ouais.
Et du coup, toi, tu sers de ciment entre les deux. C'est pareil pour le légal, c'est pareil pour l'innovation, pour beaucoup de trucs. Donc, c'est une place de ciment, on va dire, qui est magique, qui est très, très, très intéressante. Et si tu arrives à faire un bon ciment, tu fais un truc incroyable. Un trio magique, ops, marketing, sales, ça peut faire des malheurs. Donc, c'est très cool de te dire que tu participes à ce triangle-là.
Ouais.
Ensuite, comment tu t'organises? Comme on est transverse, on est sollicité par les équipes. Donc, faisons très simple, les sujets nous tombent dessus.
Ouais.
Et ils nous pleuvent dessus tous les jours. Donc,
tu m'étonnes.
On manque pas de sujets. et effectivement, du coup, tu as un enjeu de priorisation.
Ouais.
Comment je priorise? Et surtout, il faut que tu arrives à mobiliser l'ensemble des équipes pour faire avancer ton projet.
Okay.
Truc tout con, mais tu peux avoir une demande sales, en fait, qui nécessite d'avoir de l'innovation.
Ouais.
Ta team innovation, d'avoir des devs, etc. Et du coup, il faut que tu arrives à mobiliser les bonnes équipes au bon moment, etc. Comment on s'organise, c'est très simple. Tous les 3 mois, on fait des roadmaps.
Ok.
Et on dit, les gars, voilà ce qu'on va traiter. Donc, on ouvre les portes. On dit à toutes les équipes quelles sont vos demandes.
Ouais.
On récolte les demandes de toutes les équipes. Et ensuite, on fait ce travail quand est-ce qu'on peut faire travailler le marketing avec le sales, etc. etc. Et on essaie de prioriser les sujets. Ok, ça peut attendre un peu, etc. etc.
Okay.
Du coup, on priorise, on draft notre roadmap. Et après, toutes les semaines, on utilise Notion avec un Kanban, genre ouais. un peu à la Trello avec des cartes. Et tu prends tes espèces de gros projets, tu les découpes en cartes. Et puis toutes les semaines, tu fais avancer tes cartes, etc. etc.
Très bien.
Donc on débriefe toutes les semaines. Si tu es bloqué, tu te dis, bah voilà. Donc on est trois dans l'équipe pour l'instant.
Ok.
Donc on est trois à discuter. Mathieu me dit, bah voilà, j'ai fait ça cette semaine, ça, ça, ça. Là, je suis bloqué, etc. Donc voilà comment on s'organise aujourd'hui sur le traitement des projets.
Ok. Donc quand même pas mal à l'avance. Enfin, ça demande quand même que les sujets que tu vas traiter pendant tous les trois mois, on peut te soumettre de nouveaux sujets.
Oui.
Mais il faut quand même y penser un peu à l'avance ou ça oui. peut pas être traité des urgences, quoi.
Non. Y a une grosse partie de run dans notre ouais. métier. Et du coup, quand on draft les roadmaps, on garde aussi du temps libre
okay.
parce qu'on sait qu'on va avoir du run. Et on est une équipe support, donc très souvent dans la journée, tu as au moins deux personnes qui viennent te voir pour te dire « Ah, en fait, j'ai besoin de faire ça, est-ce que tu peux m'aider ?» Donc, il faut que tu gardes un peu de temps libre sur ta journée.
Oui, clairement.
La flexibilité.
Ouais. Ouais, ce serait trop beau de pouvoir savoir exactement ce que tu vas faire pendant trois mois à l'avance.
Non, ça marche pas.
Oui. Justement.
Surtout en startup et en scale-up où ça bouge très vite.
Ah bah clairement.
Peut-être que dans des grosses boîtes, ça fonctionne.
Clairement.
Ouais.
Bah justement, c'est la question que je voulais aborder. On parle de startup scale-up. Donc Swile, anciennement Launcher, c'est une des startups les plus connues en France, les plus hautes du moment. justement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Combien vous êtes aujourd'hui ? Comment est-ce que ça a grandi depuis que tu es là ?
Ouais.
Et qu'on parle aussi justement de ce changement de nom qui reflète, du coup, j'imagine, plein de trucs aussi en interne et sur là, les axes de développement de Swile.
Ouais.
Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter tout ça ?
C'est en grande partie grâce à Claire-Lise, que tu as croisée tout à l'heure dans le
ouais.
couloir, et aussi Camille, qui bossent toutes les deux sur de la chasse de talent.
Ouais.
Et en gros, on est passé... Donc, quand je suis arrivé, on devait être à peu près une vingtaine, une trentaine.
Ok.
Aujourd'hui, on va bientôt taper la barre des 300 salariés.
C'est impressionnant.
En deux ans, un truc comme ça.
C'est dingue.
Ça implique beaucoup de challenges. Le premier, c'est de recruter, déjà.
Oui.
Et le deuxième, c'est de réussir à faire perdurer ta culture. Alors que ça grossit très vite et ouais. que tu recrutes des profils qui sont très différents. Tu as des sales, tu as des mecs à l'innovation, tu as des mecs au marketing et c'est des profils qui sont souvent très différents.
Ouais.
Du coup, c'est un très beau challenge qui, je pense aujourd'hui, Claire-Lise et Camille ont réussi à le franchement haut la main à passer ce challenge-là. C'est pas fini. je crois qu'on va pas s'arrêter là. Mais du coup, ouais, il y a cette croissance-là qui implique des changements organisationnels. Tu as de nouvelles équipes qui se forment, tu as des équipes qui se... typiquement, je te disais tout à l'heure, le marketing,
ouais.
c'était une grande partie de mon travail avant. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'il y a une quinzaine de personnes au marketing aujourd'hui
okay.
et qu'il y a des mecs qui sont spécialisés en brand, il y en a qui sont spécialisés en contenu. Et du coup, c'était cool pour faire maintenir ton MVP,
ouais.
d'avoir des petits trucs, mais il y a un moment où il faut que tu ailles un peu plus en profondeur.
Carrément.
Donc, ça implique aussi une refonte de ton job assez permanente au sein de la boîte.
Je trouve que c'est vraiment passionnant de voir justement quels sont les enjeux auxquels tu peux être confronté quand tu passes de 20 à 300. Ça peut tellement partir dans
oui.
tous les sens
ouais.
et être une énorme galère et en fait qui peut limite aller jusqu'à être un enjeu de survie pour
ouais.
ta boîte quoi. Enfin,
je pense
ça
que
peut...
tu peux planter ta boîte.
Bah carrément.
Si tu perds ta culture.
Ouais.
Surtout qu'on est une boîte à peut-être que je grossis un peu le trait mais on doit être à 60-70% 16.
Ouais.
C'est des profils qui peuvent être perçus. Je dis bien perçus parce que c'est pas du tout le cas chez nous. Mais ça peut être des profils qui peuvent être perçus comme un peu égoïstes,
ouais.
qui mènent leur propre barque. Et je le répète, c'est pas du tout le cas chez nous. On a cette chance là. Mais du coup, il faut réussir à faire ça,
ouais.
à effectivement pas faire écrouler ton truc dans l'égoïsme et dans « je te pique ton deal », etc. etc.
Ouais.
Donc, effectivement, un gros warning sur ta culture.
Carrément. Et un gros enjeu quand tu vas recruter les personnes que tu vois deux, trois fois en entretien,
ouais.
Justement, tu vois, typiquement, on parle des profils sales qui sont, même si ce n'est pas le cas chez Swile, perçus comme étant pouvant être des profils avec un tempérament assez égoïste. Si tu veux pas de personnes comme ça chez Swile,
ouais.
il faut que tu arrives à le voir très rapidement.
Ouais,
quoi. Et ça, c'est quand même... c'est juste crucial et pas si facile.
Oui.
Comment se passe, du coup... deux petites questions sur ça. La première, c'est ça se passe comment, typiquement, niveau entretien pour entrer chez Swile ? Et la seconde, c'est un peu, pour toi, quels sont les points de culture un peu d'entreprise qu'on retrouve chez Swile et qui font un peu la spécificité de l'entreprise ?
Yes. Du coup, sur les recrutements,
ouais.
J'en ai fait quelques-uns. Donc, ce ne sera pas exhaustif, mais...
Yes, bon, juste les grandes idées.
Ouais. Le premier entretien, c'est surtout un entretien de culture fit.
Okay.
Et de fit humain. Très clairement, c'est comme ça qu'on arrive à garder la culture. Et donc, le premier entretien est assez informel. On voit un peu si le courant passe bien avec la personne, si elle a bien compris ce qu'on fait chez nous,
ouais.
Si elle a compris ce qu'est son poste et ce qu'elle a envie de faire, surtout. Chez nous, parce que c'est arrivé plein de fois, pour être honnête, qu'il y a quelqu'un qui postule à un poste, il nous explique ce qu'il veut faire, et en fait, on revient vers lui en lui disant « Ce poste-là, je suis pas sûr, mais en fait, on a un autre poste
oui.
qui est ouvert, et ça a l'air de bien coller, donc je t'envoie la fiche, on en discute, et dis-moi si ça peut t'intéresser. » Donc voilà, t'as ton premier entretien qui est assez informel, on discute pour savoir ce que t'as envie de faire, etc. Ensuite, t'as une deuxième étape, souvent qui est « On va vérifier tes compétences technique, donc ça s'applique pas à tous les jobs,
ouais.
Mais en général on prépare un petit use case, rien de bien méchant, mais voilà, on vérifie si le minimum hard skills dont tu as besoin est validé.
Okay.
Du coup ça, on essaie de faire en sorte que ton premier et ton deuxième entretien ne se fassent pas avec la même personne,
ouais.
Et comme ça tu rencontres un peu des personnes de ton équipe et les personnes de l'équipe rencontrent la personne aussi. Et le troisième entretien chez nous, c'est le manager
D'accord.
qui s'en occupe. Et qui justement le projette un peu dans son poste et voit si effectivement ça va fitter avec lui aussi. Et voilà. Donc en général, je pense qu'on est à peu près à 3 entretiens pour un recrutement.
Super. Ok, top. Et en termes de culture d'entreprise, du coup,
ouais.
C'est quoi un petit peu les particularités de Swile ?
On a des valeurs d'entreprise.
Ouais.
Que tout le monde connaît à peu près. Je t'avoue que je les ai oubliés. Mais il y a évidemment le « on va vite »,« we move fast », »,« on est des doers », »,« on essaie de faire un maximum ». En fait, il faut se mettre à notre place. On arrive sur un marché face à 4 acteurs qui sont très bien implantés en France, qui ont un très bon business, ils sont bien connus de tout le monde. Et nous, on arrive vraiment en mode pirate, dans le sens où il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on y aille vite et qu'on fasse énormément. On ne peut pas se reposer du tout une minute sur ce qu'on a réussi à faire, etc. On est en perpétuel mouvement. On en parlera peut-être après, mais l'innovation, c'est un truc qui est majeur chez Swile et qui drive de ouf tout le monde chez nous. Et du coup, ça fait partie de la culture que tu dois avoir.
Ouais.
Tu ne dois pas avoir peur de changer. Les choses changent très, très vite. Les process sales, ça m'arrive des fois de drafter un process sales et genre 2 semaines après de leur dire au fait les gars ça a changé, on fait ça maintenant.
Ouais.
Donc à tous les postes, à tous les niveaux, il ne faut pas avoir peur du changement. Tu es très bien accompagné sur ça. Mais, et ce qui explique peut-être le fait qu'on ait beaucoup de profils très jeunes, très
ouais.
technophiles chez nous. Je crois que la moyenne d'âge elle doit être à 30 ans. Tout le monde sait bien utiliser son PC, etc. Voilà. et en termes de culture, j'ai pas du tout une vision naïve de la compagnie en termes de société. Je ne pense pas qu'une société puisse être bienveillante. Je pense qu'une société, son enjeu, c'est de faire du business et de réussir à conquérir un marché, de réussir à délivrer un produit qui est optimal. Mais par contre, je crois très fortement en la bienveillance des personnes qui travaillent dans cette société-là et le fait que certains profils, ça peut être Claire Lise, comme ça peut être Loïc,
ouais.
Essaye, ou ton manager direct, essaye effectivement de véhiculer ces besoins de bienveillance au sein de l'équipe.
Okay.
On essaie de le faire un maximum avec tous les nouveaux qui arrivent. Donc cette bienveillance-là, elle se traduit dès le moment où tu arrives chez Swile, en général où tu ouvres ton Slack
ouais.
et tu as déjà 60 messages de bienvenue avec des propositions d'aller boire un verre ou manger une pizza ensemble à midi alors que tu connais personne. Du coup, c'est quand même... très rassurant quand tu arrives dans une entreprise de voir que on a envie que tu viennes chez nous et ça nous fait plaisir que tu viennes chez nous. Ensuite, on passe beaucoup de temps avec les nouveaux dans des sessions d'onboarding,
ouais.
Ce qui est propre au fait qu'on recrute énormément de personnes. On fait des sessions d'onboarding parfois à 10 ou 20 personnes.
Ah ouais.
Tu recrutes avec 20 personnes recrutées d'un coup,
ouais.
D'où le challenge pour la culture fit aussi.
Carrément.
Mais du coup, tu as ces sessions d'onboarding-là qui vont durer 3-4 jours. On les envoie à Montpellier parce que parfois tu as des personnes qui sont à Paris, donc il y a un bureau à Paris et un bureau à Montpellier.
Ouais.
Et du coup, tout le monde se regroupe à Montpellier. On leur fait découvrir nos bureaux à Montpellier qui sont superbes et ils vont passer du temps ensemble. On va leur présenter notre produit, ce qu'on fait, etc. Donc tu débarques pas dans la boîte en étant genre perdu. Donc le premier jour où tu ouvres ton PC, tu as des messages pour te dire bienvenue. Ensuite, on fait attention à toi, on t'explique où tu mets les pieds
Oui.
dans la boîte en général. Et ensuite vient, on va dire, l'intégration au sein même de ton équipe et de tes missions. Et là, pour être très honnête, les personnes de ton équipe et celles avec qui tu vas travailler font le maximum pour dégager du temps dans leur agenda et pour que tu puisses, voilà, booker un 30 minutes, 1 heure avec elles et que tu te sens très à l'aise pour aborder tes missions chez toi. Donc, si je vais retenir un truc, c'est la bienveillance qui
Trop
est
bien.
très très forte et qui est un cercle vertueux parce qu'en fait, quand tu es passé par toutes ces étapes-là, et bah, les petits nouveaux qui arrivent, et bah, tu as envie de faire la même chose pour eux parce que tu sais ce que tu as ressenti au moment où tu es passé
Carrément.
par ces étapes-là dans le boarding.
Ouais. L'onboarding est le moment où tu rentres dans une entreprise toute nouvelle, surtout quand tu me dis que la moyenne d'âge c'est 30 ans, donc des
Ouais.
personnes qui n'ont pas non plus trop l'habitude de ça.
Ouais.
C'est juste, enfin, il y a tellement d'incertitudes à lever sur tes premiers jours de taf, sur bah,
Exactement.
comment j'arrive, à quelle heure j'arrive, comment est-ce que je m'habille, est-ce que mes collègues vont être sympas, etc. Que si bah, vous arrivez à faire le maximum pour que bah, déjà ils se sentent bien quand tu arrives, enfin, c'est juste. Enfin, hyper
Totalement.
important et ça change tout, quoi.
Ouais, le truc où t'arrives, et effectivement, t'as raison, le truc tout con, genre, je sais pas trop comment je m'habille,
Ouais.
etc. On a rigolé parce qu'on a fait passer plusieurs entretiens où les gars viennent en costume cravate.
Ouais.
Mathieu est venu en costume cravate. Ça n'a aucune importance, bien sûr, mais effectivement, t'as ce truc-là de je sais pas trop comment je dois m'habiller, enfin,
Ouais.
détente. Donc,
Ouais, c'est ça.
rien que le fait que tu sois détendu sur ça,
Ouais.
sur comment je dois me comporter avec mes collègues. Est-ce que je vais être bien intégré ou pas? Et ensuite, le fait qu'on te détende sur tes missions aussi,
Carrément.
ça fait beaucoup de bien quand t'arrives dans
C'est
une
sûr.
société.
C'est sûr. Ben justement, on parle de la culture. Autre sujet important chez Swile, c'est ce changement de nom qui reflète, tu me le disais un petit peu en off tout à l'heure, aussi le développement de votre produit. Donc Launcher, qui était à la base une carte ticket restaurant, est maintenant plus ou moins, hein,
Oui, bien sûr.
et qui du coup maintenant évolue. Tu peux un petit peu nous parler de ça?
Yes, c'est des très gros challenges.
Ouais.
Je te parlais tout à l'heure de l'innovation et du fait qu'on change tout le temps.
Ouais.
C'est très lié à ça. Effectivement, on ouvre notre produit qui était principalement centré sur notre relation avec des restaurants ou des chaînes ou des grandes surfaces.
Ouais.
La carte titre restaurant et la plateforme de commande en ligne dans ces restaurants partenaires. Avec un panel beaucoup plus large qui en fait a pour objectif de venir t'accompagner sur tous tes moments dans ton entreprise, tous tes avantages salariaux. C'est-à-dire que tu pars en vacances, et bah, tu as tes chèques vacances sur ta carte Swile.
Trop bien.
C'est le Noël des enfants, et bah, tu as tes chèques Fnac qui sont sur ta carte Swile aussi, etc., etc. Donc ça, c'est une partie multiproduit. Et il y a aussi un départ à l'international qui se lance là.
Ok.
Et du coup, c'est un gros enjeu aussi pour Swile, un gros challenge pour Swile aussi. Et le rebrand, pardon, du coup, je t'ai pas répondu sur la question du rebrand. Donc, on s'appelait Launcher. Et il y a le mot lunch dedans, qui est très connoté food, nourriture, etc. On avait besoin de se détacher de cette image-là, puisqu'on ouvre notre panel. Et il y a une autre raison très terre à terre. Launcher, c'est un enfer à prononcer pour nos amis espagnols, italiens, portugais. Et du coup, c'était un truc pas facile à dire dans plusieurs langues. Et c'est tout con, mais bah, tu l'apprends en école de commerce, que c'est très important de faire des études de culture quand tu t'implantes dans un pays.
Carrément.
Et du coup, un peu plus culture fit le Swile, qui est du coup la contraction du mot smile et work. Qui est un peu effectivement notre idée de rendre ta vie au travail ou ta collaboration avec tes collègues au travail plus facile et le bien-être au travail.
Trop bien. Très, très, très beau nom en tout cas et très beau sens derrière ce nom. Donc du coup, si je vulgarise assez rapidement, avec la nouvelle carte aujourd'hui Swile, tu as un montant qui est alloué dessus, choisi du coup par l'entreprise, et l'employé peut payer dans des enseignes assez différentes, et ça peut aller du coup de la restauration à la grande surface, au sport, aux activités culturelles,
Exactement.
avec cette carte-là.
C'est exactement ça.
Trop bien. On va revenir un petit peu à toi et ton équipe. Tu m'as dit que vous étiez trois aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle est structurée, comment elle est structurée ton équipe?
Yes. Du coup, au tout début de Launcher, on était deux. Donc, il y avait Romain Libaud et moi, qui aujourd'hui
Ok.
occupent le poste de COO.
Ok.
Et du coup, la team est en train de se structurer. Il y a Jean-Baptiste qui nous a rejoint il y a genre 3 mois.
D'accord.
Donc c'était très drôle parce que avec Mathieu qui est mon collaborateur, on a recruté notre boss.
Mais, hyper cool.
Exactement. Donc très drôle et effectivement c'est cool parce que tu recrutes vraiment ce dont tu as besoin et c'est vraiment cool qu'on nous ait laissé la chance de pouvoir
carrément
recruter la personne avec qui tu vas travailler après. Donc aujourd'hui il y a Jean-Baptiste qui est Head of Internet Operations, dans lequel tu vas retrouver plusieurs silos. Il y a l'enablement, dont l'objectif est de former les équipes. On en parlait tout à l'heure, tu as un enjeu énorme de formation chez nous. Formation des équipes, accompagnement des équipes, montée en compétences,
ouais,
et qui aujourd'hui est l'idée par Mathieu. Ensuite, tu as un silo qui est le business opération.
Okay.
Donc, tu as un silo business opération dans lequel tu vas retrouver le sales ops, le service ops. Donc il y a Sylvain qui nous a rejoint il y a à peu près 2 semaines dans l'équipe. Le service ops, il a pour vocation de beaucoup plus appuyer les équipes care et CSM dont on parlait au début.
Ok.
Donc voilà, t'as ton sales ops, t'as ton service ops et on est en train de recruter un stagiaire côté sales ops. Mais voilà, c'est les postes qu'on a aujourd'hui.
Super.
Et un silo qui est, d'ailleurs je devrais plutôt dire pas un silo, mais une verticale.
Ouais.
Y a une verticale qui est BI Data. C'est un enjeu très fort au sein de la team Ops.
Ouais, quand même, c'est énormément spécialisé ouais, comme job,
oui,
par rapport au début où
oui,
t'es arrivé et où t'étais sur à la fois le CSM, le CARE.
Exactement.
C'est
exactement
assez dingue. On parlait des hard skills. J'imagine que t'en as appris pas mal sur le tas, du coup. Quels sont pour toi les hard skills nécessaires aujourd'hui pour faire ton job?
Le sales ops est un job qui peut prendre beaucoup de formes différentes en fonction de l'entreprise dans laquelle tu te trouves,
mm-hmm,
et en fonction justement de la structure de ton entreprise.
Ouais.
Si tu es moins avancé en marketing, tu vas être avancé à faire plus de marketing, etc. etc. Tu comprends l'idée de
carrément
balance un peu entre les équipes. Voilà. Mais aujourd'hui, les trucs principaux que je suis amené à utiliser, bien sûr du Excel.
Mm-hmm.
Ça va être utile tout le temps d'avoir cette logique Excel avec les formules, etc. Ton tableau croisé dynamique, enfin tes basiques.
Ouais.
Ensuite, quelques bases sur du CRM, c'est quand même très cool. Aujourd'hui, je joue le rôle d'administrateur sur le CRM, c'est-à-dire que je suis capable de faire de l'architecture dessus.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu, mais genre minuscule peu de code, mais tu vois, tout ce qu'on disait tout à l'heure, les chemins logiques, etc., la construction entre tes différents objets, etc. Donc c'est cool d'avoir une bonne idée de ce qu'est un CRM.
D'accord.
Par contre, c'est pas du tout le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. C'est pas grave,
okay,
si t'as jamais touché un CRM, c'est un vrai plus.
D'accord.
De l'avoir fait. Et sur des postes de senior, genre c'est mandatory de
ouais,
ouf, mais sur du junior qui commence, t'apprendras sur le tas, clairement.
Ok. Faut surtout pas se censurer ou ne pas postuler pour ça.
Non,
okay,
surtout qu'aujourd'hui que tu utilises HubSpot, Zoho, Salesforce, etc., t'as énormément de formations en ligne,
okay,
et qui te permettent de découvrir l'outil, de te former dessus, etc. Donc ne
super
sois pas frileux sur ça. Et après, des petits outils que tu seras amené à utiliser, notamment parce que t'es pas dev, on en parlait tout à l'heure, ton Zapier.
Ouais.
Voilà, des petits outils comme ça, du Unbounce, du Zapier, tous des petits trucs qui existent un peu sur le marché et qui, pour en no-code pur, te permettent d'être très autonome et d'avancer rapidement sur tes projets.
Ok. Et en termes de soft skills, est-ce qu'il y en a pour toi? J'ai quand même l'impression que c'est un job assez... Enfin, j'imagine qu'il y en a, mais un job quand même assez hard skills, non? Finalement.
Soft skills.
Oui, soft skills, pardon, finalement.
Exactement. Il y en a plusieurs.
Ouais.
Et je pense que tu n'es pas obligé d'avoir tous les soft skills,
ouais,
pour être un très bon
sales. C'est sûr.
Grande capacité de data... Oh, je n'ai pas choisi le meilleur mot. Une grande capacité d'adaptabilité.
Ouais.
Le fait de prendre en considération tous les feedbacks qu'on va te faire,
mm-hmm,
pour faire évoluer au mieux ta machine pour qu'elle corresponde aux besoins réels.
Ouais.
Il faut être méthodique dans le sens où, on en parlait tout à l'heure, les sujets te
tombent dessus.
Exactement. Ouais. Et du coup, il faut vraiment que tu passes du temps avec la personne qui te propose le sujet parce que bien souvent, elle ne sait pas toujours ce qu'elle cherche.
Okay.
Elle ne sait pas toujours ce qu'elle veut. Et du coup, elle a une idée. Mais il faut vraiment que tu comprennes ce qu'elle veut faire. Parce qu'en fait, tu vas passer beaucoup de temps sur un truc et en fait, ça ne répondra pas à son besoin.
Ouais.
Donc, il faut être très méthodique pour quel est réellement ton besoin, comment je l'adresse, et toujours avec cette vision genre 360 de la boîte, avec « Ah, mais j'ai entendu, au légal, ils vont faire ça, au marketing, ils vont faire ça,
ouais,
on branche tout ça ensemble, etc. » Donc, beaucoup de méthodes. Et il y a des outils magnifiques qui t'aident à le faire. Notion t'aide à être très méthodique.
J'adore Notion.
Voilà. Donc beaucoup de méthodes. Tu draftes une template de genre fiche projet et ouais. tu dis ok, sur une fiche projet, je dois avoir répondu à telle question.
Ouais.
Et ça implique pour toi d'avoir une très grande rigueur, ce que je n'ai pas du tout. Mais du coup, tu te forces réellement ouais. à te dire il faut que je remplisse cette fiche-là. Et je pense une très bonne gestion du stress. C'est quelque chose que j'ai rencontré tout particulièrement au début.
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu la chance très rapidement de switcher sur ce poste que personne d'autre n'occupait.
D'accord.
Avec un manager direct, Romain, qui est aujourd'hui COO, donc qui est, pareil, une machine de guerre incroyable. Tout ça pour te dire que tu te retrouves très vite propulsé à un poste où tu es tout seul.
Ouais.
Tu es le seul à maîtriser ton truc. Et du coup... Et on parlait des KPIs tout à l'heure que tu donnais à tes managers.
Ouais.
En fait, tu as une très grande responsabilité. Il y a pire que de donner de ne pas avoir de dashboarding.
Ouais.
C'est d'avoir des dashboardings qui sont faux. Et en fait, tu penses aller au nord et tu vas plein est. Et en fait, tu mènes ton business pas dans le bon sens.
Ouais.
Et du coup, il faut être très à l'aise avec le fait que tu vas avoir du stress. Tu es tout seul sur ta position. Toujours ton manager pour t'accompagner, aucun doute là-dessus, avec la bienveillance de Swile.
Oui.
Mais tu as beaucoup de responsabilités et donc tu as du stress qui vient avec. Donc ça, et le fait aussi que comme tu as très peu de hard skills et que tu viens de mettre les mains dans le CRM, tu vas faire des conneries mais à balles.
Oui.
Et du coup, faut relativiser, il faut prendre son temps, il faut réparer les conneries que tu as fait qui impactent accessoirement 120 sales
oui.
À l'instant où tu parles. Donc voilà, il y a une urgence, etc., qui te okay. crée du stress.
Pas facile quand même, je trouve, quand tu sors d'école de commerce, que tu n'as pas ces hard skills-là,
ouais.
et qu'on te dit, bon, bah, tu vas apprendre, et en même temps, tu dois nous donner les bons chiffres, les bons KPIs, parce que sinon, bah, la boîte, tu l'emmènes dans le mauvais sens,
oui.
Et que ça peut impacter, du coup, comme tu le disais, 130 sales, il faut quand même avoir pas mal de confiance en soi, ou en tout cas, gérer justement... Oui, yes. confiance en soi pour être à cette place.
Et tu as un enjeu très très fort de mentoring.
Ouais.
Genre, je ne remercierai jamais assez Romain pour ça,
mm-hmm.
qui en 2 ans m'a fait grandir puissance
okay.
grand V. Et en fait, grâce à Romain, il n'y a pas un jour que j'ai passé chez Swile sans apprendre.
D'accord.
Et je pense que c'est un truc qui est très... Enfin, surtout sur des profils jeunes,
mm-hmm.
C'est très intéressant de te dire oh, tous les jours j'ai appris un truc.
Carrément.
En fait, tu rentres chez toi et tu te dis putain, je sais comment faire ça maintenant, etc.
Mm.
Et du coup, oui, t'as beaucoup de stress, mais si t'as des bons mentors
autour
de toi, c'est le meilleur des mondes.
Ouais.
Voilà.
C'est sûr.
Si effectivement t'as ce truc-là de toujours remise en question, et il faut surtout pas prendre les choses personnellement.
Ouais.
Si quelqu'un vient te dire ton truc il fonctionne pas, faut pas te vexer et bouder dans ton coin.
C'est sûr.
Tu dis ok, pourquoi ça fonctionne pas, et tu soldes ton truc ouais. et tout le monde est content.
Ouais, je trouve que cette question-là elle est hyper importante parce qu'on me dit toujours. En start-up, on n'aura pas le temps pour toi parce que tout le monde est déjà sous l'eau tellement il y a de choses à faire. Donc, faut que tu apprennes tout seul. Mais en fait, quand tu arrives avec tes juniors, c'est des autres que tu grandis aussi. Donc,
aussi.
Les managers, c'est juste le plus important. Enfin, il y a Maya Mess qu'on avait interrogé sur le podcast qui est product manager, qui a été product manager chez BlaBlaCar et chez Aircall, qui nous disait « Don't pick a job, pick a boss ». Et moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment... d'accord avec cette philosophie et le fait que en fait, c'est ton boss qui va te faire grandir quand tu sors d'école.
Tout à fait. Mmh. Ça m'a suivi sur tout Swile. Il y a eu plusieurs moments où il y a eu des restructurations, etc.
Ouais.
Et on m'a demandé, mais tu continues avec qui? Et à chaque fois, j'ai dit Romain.
Trop bien.
Sans aucune hésitation.
Trop bien. et justement, ton aventure chez Swile, du coup, ça fait un peu plus de... presque 2 ans que tu es là.
Un peu plus de 2 ans.
Un
ouais.
peu plus de 2 ans.
Exactement.
C'est quoi ton plan sur les prochaines années, perso? Si t'en sais quelque chose d'ailleurs.
Et bah, c'est un peu comme quand je sors du lycée et qu'on me demande tu veux faire quoi.
Ouais.
Je sais pas trop, il y a plein de portes en face de moi. Il y a énormément de choses. C'est l'avantage d'être dans une scale-up avec du multi-produit qui s'ouvre, des départs à l'international. Il y a un nombre de projets qui est merveilleux. Effectivement, les deux canaux qui s'offrent à moi là principalement, c'est l'international.
Ouais.
Donc une position sur l'international. Le multiproduit ouvre une multitude de questions derrière et de postes là-dessus aussi. Et il faut qu'on fasse grossir la team. Et du coup, sans parler de pure management, il y a cette envie vraiment de rendre l'appareil sur ce que j'ai vécu et de faire grandir quelqu'un, de l'aider à prendre un poste de sales ops, etc. Et ce qui est cool, je trouve, avec un stagiaire, c'est que c'est quelqu'un qui est très junior
ouais.
Et qui va se modeler un peu à l'image de la boîte. Et du coup, effectivement, tu peux vraiment le faire coller à tes sujets, etc. Donc, c'est des profils qui sont très challengeants. Souvent, le poste de stagiaire fait que tu es très challengeant.
Ouais.
Et du coup, c'est très, très cool de pouvoir faire grossir l'équipe avec ces profils-là. Et du coup, il y a un enjeu aussi de probablement de management qui va se créer sur les prochaines années.
Trop bien. Et du coup, tu dois encore rester chez Swile assez longtemps.
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais. Il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de challenges.
Bah, clairement.
Aujourd'hui, je, pour être très honnête, j'ai aucune raison de vouloir partir de chez Swile au moment où
trop
on
bien.
Se parle. Donc, j'ai très envie de continuer chez Swile.
Trop bien. Je trouve ça assez impressionnant. Ça rejoint la culture. Et là, j'écoutais, en venant, j'écoutais le podcast, nouvel épisode de Génération Do It Yourself, justement, avec Jérémy Cléda, le CEO de Welcome to the Jungle, qui disait que pour lui, sa vision d'une boîte et d'une culture réussie, c'était une culture justement où, aujourd'hui, en start-up, généralement, les personnes restent 1 an, 2 ans,
ouais.
S'en vont.
Oui.
Une culture où les gens se sentent bien, tu pourrais rester 15 ans dans la même boîte et devoir occuper différents postes et évoluer dans la même boîte et grandir, comme tu le faisais avant en grand groupe, et juste toujours kiffer. Et je trouve ça super cool qu'après plus de 2 ans ici, tu as encore plein de visibilité et que ce soit toujours super cool.
Et c'est aussi drivé par l'innovation, le fait que tu sortes toujours de nouveaux produits, etc. Donc, cercle très vertueux sur ça.
C'est sûr.
Et je pense que l'un des meilleurs exemples, c'est, je le disais tout à l'heure, on a genre 60% de la boîte où c'est des sales, où c'est des profils à fort turnover souvent.
Ouais.
Les gens s'en vont parce que notamment ils sont chassés par d'autres boîtes.
Mm-hmm.
On a très peu de turnover sur l'équipe sales.
Trop bien.
Donc ça te montre cette importance aussi de culture et le fait qu'on prenne soin de chacun des profils chez nous.
C'est sûr, c'est sûr. Écoute, on a déjà couvert pas mal de sujets. J'aimerais qu'on passe du coup au petit mot de la fin et aux deux petites questions qu'on aime bien poser à chaque fois. La première, c'est si tu voulais me convaincre que tu as le meilleur job sur Terre, qu'est-ce que tu me dirais en 30 secondes?
J'ai déjà beaucoup parlé, mais je pense que déjà la mission, mm-hmm. les missions que tu peux avoir, on en a parlé tout à l'heure, le job c'est juste l'éclate sur les missions.
Ouais.
L'environnement, donc ta culture et tes collaborateurs, tes collègues. Et tes perspectives, t'en parlais tout à l'heure aussi. Je pense que si j'avais des missions très cool avec des collègues hyper sympas, mais mm-hmm. que j'avais pas de perspective d'évolution, surtout sur des profils jeunes,
il ouais.
Y a un moment où t'es face à un mur et t'as envie de changer, tout
ouais.
simplement. Tout dépend des profils, il y a des personnes qui sont moins à l'aise avec le changement, etc. Mais effectivement, le fait que tu aies des perspectives d'évolution au sein même de ta boîte, en fait, t'es dans le meilleur des mondes, vraiment.
C'est sûr. Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous raconter ta pire bourde au boulot, si t'en as une?
Ah, avec plaisir. Oh là, il n'y en a pas qu'une, clairement. J'ai passé 2 ans à ne faire que des bourdes tous les jours. Il y en a une qui m'a marqué. J'étais dans la boîte peut-être depuis 1 an,
ouais.
donc encore très, très, très junior, et je n'avais pas toutes les subtilités de notre CRM. Bref, je plug un outil à notre CRM qui s'appelle HubSpot,
ouais.
et qui est aussi un CRM et qui à l'époque nous permettait de faire du marketing automation, envoyer des mails automatiques, des choses comme ça. Bon, je branche les deux bases, tout se passe très bien. Je vais me coucher et le lendemain matin, j'ouvre mon Slack et il y a quelques messages de sales qui me disent « Sacha, c'est bizarre, je ne retrouve pas mes opportunités. » Donc, ce qui correspond à tes deals avec tes prospects, je ne retrouve pas mes opportunités, tout ça. Putain, donc je commence à baliser parce que je savais ce que j'avais fait la veille. Et du coup, je cherche et je finis par trouver que en fait, la liaison entre cet outil-là et mon Salesforce a delayed tous mes deals. Et donc, la gestion du stress, comme
ouais.
je te parlais tout à l'heure, en prend un coup très sévère.
Tu m'étonnes.
Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais, si tu as les mauvais KPI, tu fonces dans le mur. Si tu delayed ton CRM,
tu fonces aussi dans le mur.
T'écrases la vie. Et du coup, j'étais vraiment pas serein. Romain vient me voir et me dit un truc qui va me marquer tout le temps ou me fait comprendre un truc très important chez Swile qui est tu as le droit à l'erreur, c'est pas grave.
Ouais.
Par contre, il faut que tu la comprennes. Il faut que tu la comprennes pour 2 raisons. La première, c'est pour réussir à solver ce que t'as créé. En mm-hmm. fait. Ça peut paraître tout con, mais il y a beaucoup de trucs. Dès que tu touches un peu à de la technique que tu maîtrises pas trop, ben, en fait, tu sais pas ce que t'as foiré.
Ouais.
Du coup, il y a ce premier truc de tu la comprends parce que tu vas pouvoir solver, et le deuxième, c'est tu la comprends pour ne plus la refaire.
Ouais.
Du coup, il y a ce droit à l'erreur qui est mis en avant très vite. Je corrige l'erreur Et regarde, on n'a pas coulé encore.
C'est donc, super.
Donc c'était une très grosse bourde où tout ce que je t'ai dit avant, la gestion du stress, etc., est franchement mis à rude épreuve. T'es pas bien du tout. Mais voilà, encore une fois, si ton mentor il est là et qu'il t'accompagne, et que tu apprends à prendre un peu de... Il faut réussir à prendre du recul sur la situation dans laquelle tu te trouves. Oui. Tout en n'oubliant pas qu'en fait, t'as pas le choix de solver ton truc.
Oui.
C'est un premier truc qu'il faut que tu comprennes en startup, c'est que souvent tu fais les trucs parce que t'en as besoin. Donc t'as pas le choix de solver le truc, tu peux pas le mettre dans un carton et le cacher quelque part. Il faut que tu solves le truc et il faut que tu le solves assez rapidement parce qu'il y a du monde derrière qui est impacté.
C'est
et
sûr.
Là, c'est tes équipes 16. Oui. Donc il faut que tu solves ton truc.
Mais encore une fois, et on terminera sur ça, le fait d'avoir une relation de confiance avec ton boss qui est ton mentor, c'est juste. Si t'avais pas eu cette relation-là avec lui, je sais pas si tu serais allé le voir et si tu lui. Enfin, moi, j'aurais eu tendance typiquement à cacher la bourde et à essayer de la résoudre dans mon coin.
Et en fait,
mais qui est normal, mais qui peut te, déjà qui peut te faire que tu trouveras jamais la réponse.
Ouais.
Et en plus, qui te met dans une situation où avec tes équipes et tout, tu te sens mal. C'est dur de gérer ton stress. Donc on en revient à ça, mais c'est le plus important quoi.
Et c'était l'un des critères aussi pour recruter le nouveau boss aujourd'hui, Jean-Baptiste.
Trop bien.
Et qui est absolument incroyable aussi.
Super, super. Écoute Sacha, ça fait déjà, je vois, 1h15 qu'on parle. C'était hyper intéressant comme échange. Je suis ravie qu'on ait pu le faire en physique en plus.
Ouais, très bien.
Et merci infiniment pour ton temps.
Merci beaucoup, à toi.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. J'espère que l'épisode t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair dans l'océan des métiers possibles. Rendez-vous sur Instagram, @vocation.co, pour suivre nos aventures. Et vous êtes déjà plus de 3000 aujourd'hui à être dessus. On se retrouve aussi mardi pour une newsletter avec plein de ressources pour mieux comprendre le job de SalesOps. Et si t'es toujours pas inscrit, le lien est dans la description du podcast. Si l'épisode t'a plu, alors laisse-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait vraiment la différence. À la semaine prochaine!